On est en train de faire une étude sur les derniers temps. Les derniers temps, on parle des derniers temps. Souvent, on dit le mot dernier temps, mais c'est pas vraiment les derniers temps. Parce qu'il va y avoir d'autres temps par après, mais un temps complètement différent. Ça va être le règne du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les derniers temps, du temps des nations. Parce que Dieu a laissé entre les mains des hommes sa création. Au début de la création, il a dit à l'homme, va, puis prends le contrôle, puis domine sur la création. Mais Dieu voulait pas que l'homme la détruise, puis qu'il domine les autres humains pour les maltraiter. C'était pas ça, la domination. C'est d'un règne, d'établir la justice, d'avoir de la droiture, puis tout ça, de marcher dans la sainteté. Ça faisait partie des principes que Dieu aurait aimé que tout le monde marche. Mais comme que vous le savez, le prince de ce monde est venu brouiller les cartes depuis le début. Il a brouillé ce que Dieu a dit. Puis ça a fait que le péché est entré dans le monde, puis on a perdu un paquet de positions. Puis là, tout est rendu un free-for-all. Il y a comme une évolution de l'iniquité qui s'accumule depuis 6000 ans que le péché prend de l'ampleur. C'est sûr qu'au bout de 1500 ans, après le début de la création, Dieu a fait un flush. Il a détruit la terre par le déluge, puis il a détruit l'ensemble de l'humanité parce que toute chair avait corrompu sa voie. Puis là, il a reparti une nouvelle descendance à travers Noé et sa famille, puis ils ont repeuplé la terre, puis là on est 4500 ans plus tard, puis c'est pas encore mieux. C'est aussi pire que dans le temps de Noé. C'est aussi pire que dans le temps de Sodome et Gomorre. J'en ai parlé dans des leçons antérieures. Que dans les derniers temps, ça sera aussi pire que dans le temps de Noé puis de Sodome et Gomorre, puis on est dedans dans ce temps-là. On est dans les derniers temps du temps des nations, où ce que Dieu laisse les nations décider de certaines affaires, prendre des choix, puis de faire du mal ou de faire du bien. Dieu voudrait appelle tous les gens à faire le bien, puis à se tourner devant son Messie, parce que le Messie, c'est le Messie de tout le monde, c'est pas le Messie juste pour deux, trois, c'est le Messie pour la terre entière, mais faut y aller à lui pour le recevoir, pour recevoir le pardon, puis d'être régénéré, puis d'avoir le Saint-Esprit. Mais là, aujourd'hui, on est en train de parler des derniers signes qui s'accompliront avant le retour de Jésus. Parce que quand Jésus va revenir, ça va être une clôture de ce temps-là. Ça va être la fin du temps de la grâce. Puis là, il va y avoir des jugements sur la planète qui s'était pas repentie. Dieu fait un appel à repentance. Tout ce qui se passe dans le monde comme effet spéciaux, là, c'est Dieu qui permet cela pour amener le monde à repentance, que ça soit des tremblements de terre. Dieu permet cela, puis sert de cela, des guerres, n'importe quoi, pour essayer d'amener les gens à crier à Dieu, pour recevoir son secours, pour que les gens lâchent leurs idoles, puis lâchent leurs abominations, puis se tournent vers le Dieu vivant. Là, on est rendu, j'ai parlé beaucoup de points à date, de points qui sont déjà accomplis, puis là, j'ai commencé à parler la semaine passée, de points qui vont s'accomplir, des choses qu'on va être témoins de nos yeux. On va voir les choses, on voit les choses s'installer déjà, des choses annoncées comme dernier signe avant le retour de Jésus. Le signe qu'on va parler aujourd'hui, on en a parlé un peu la semaine passée, on continue l'idée, c'est on va parler de l'Antéchrist puis la bête qui deviendront le gouvernement mondial. Ça, c'est des choses que les chrétiens vont voir. Puis l'idée de s'attendre à un Antéchrist ou un Antichrist ou l'homme impie ou l'homme du péché, ce personnage-là, ça fait longtemps que c'était prophétisé parce que dans le temps de Daniel, le prophète Daniel, voilà 4000 ans, il en a parlé. Jésus, les apôtres en ont parlé. Dans l'Apocalypse, il en parle. Les apôtres en parlent. Il annonce un personnage qui va paraître. Puis, une dans leurs pensées, c'était déjà dans la pensée des disciples dans le temps de Jésus. Donc, on voit ça dans Jean 1 Jean 2:18. L'apôtre Jean, il a enseigné au sujet de cet Antéchrist-là. D'un adversaire du Messie, parce que l'Antéchrist, ça veut dire l'adversaire du Messie. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, dans ce temps-là, c'était déjà prévu qu'il viendrait un Antéchrist, parce qu'il en parlait dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Et il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. c'est qu'il y en a eu beaucoup d'antéchrist, de gens, des adversaires contre Jésus. Il y en a eu beaucoup des gens qui prêchent de fausses doctrines, ils prêchent d'autres choses que Jésus. Ça fait que ça fait longtemps que ça existe, cet esprit d'antéchrist-là dans le monde. Il y en a plusieurs antéchrists. Mais il dit, on nous avait appris qu'un antéchrist vient. Ici, on parle d'un spécial, plus pire que toute la gang de ce qui a été vu à date depuis le début de la création. Un personnage dictateur mondial, né par la puissance du diable dans la méchanceté, puis de la rébellion, puis d'offense à Dieu, sans quelque chose qui est une abomination aux yeux de Dieu. On a parlé un peu la semaine passée sur l'apostasie qui était pour entrer dans l'Église, que le péché rentre dans les Églises présentement, puis ça fait une diminution de la charité. La charité du plus grand nombre qui se refroidit, ça fait que les gens, en devenant moins charitables, moins dans l'amour de Dieu les uns pour les autres, l'Église, il y a de les révoltes, puis il y en a qui vont abandonner, il y en a qui vont se trahir, il y en a qui vont se livrer aux autorités entre eux autres, là, en parlant entre chrétiens. Ce qu'on voit sur Internet, des guerres de chrétiens qui se bombardent avec des versets, là, ça n'est une démonstration de non-charité. C'est ce qui se passe présentement. Le monde n'a plus la vision, « Hey, c'est un enfant de Dieu, on fait partie de la même gang. » Comme j'ai déjà dit dans une prêche, il dit, « L'armée du Seigneur, c'est quasiment la seule armée sur la planète qui s'entretue. » Mais ça va devenir comme ça à cause qu'on est dans les derniers temps. On est dans des temps difficiles. Faut pas penser que c'est facile de vivre une vie chrétienne. Oui, si on s'enferme dans notre maison, puis tout est fermé, là, c'est sûr qu'on va trouver ça moins dur. Mais t'as qu'à une minute, tu mets le pied dehors, tu fais face à du monde qui ne savent pas vivre, du monde qui te font sentir des oppressions. Puis Jésus, on en a parlé la semaine passée, c'est à cause que le monde nous haït. Pourquoi qu'il nous haït? C'est à cause qu'on porte le nom de Jésus. Mais s'ils aiment Jésus, ils vont t'aimer. S'ils n'aiment pas Jésus, ils vont t'haïr. Il dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Puis il dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous faire la même chose. Fait que faut s'attendre en tant que chrétien qu'il va y avoir des temps durs dans la fin. Mais pourquoi que Jésus nous a dit ça? C'est parce qu'il faut se préparer. Il faut se renforcer. Il faut devenir des gens matures, solides dans le Seigneur, puis qu'on ne se laisse pas intimider, puis se laisser écraser. Tu t'en vas. Tu ne cherches pas à chicaner avec personne, mais puis tu ne donnes pas tes perles au pourceau. C'est ce que Jésus nous dit. J'ai parlé de l'apostasie qui rentre, puis qui là, il va apparaître à cause de l'apostasie, parce qu'il y a le même esprit dans l'apostasie. L'apostasie, c'est le mensonge qui rentre dans l'Église, puis le monde prêche des mensonges, puis ils vivent des mensonges qui sont des choses contraires à la parole de Dieu. C'est du mensonge. Puis l'esprit de mensonge qui est là va aussi accompagner l'antéchrist. C'est le même esprit qui travaille depuis Adam et Ève, qui a parlé à Ève puis à Adam. C'est cet esprit de mensonge-là face à Dieu n'a pas vraiment dit ça. Dieu, y a-tu réellement dit ça? Dieu, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ou toi, si tu développes, tu vas être Dieu. C'est ça la pensée de l'antéchrist, de se penser Dieu. Là, on voit dans 2 Thessaloniciens 2, au chapitre 3, ça dit que personne ne vous séduise, le jour du Seigneur n'est pas revenu encore, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Là, on parle de cet adversaire-là, cet antéchrist-là qui est supposé venir. Un parmi tant d'autres, mais un exceptionnel. Il faut voir paraître, les chrétiens vont voir cet antéchrist-là au pouvoir, puis vont en subir les effets de son règne néfaste. La Bible l'appelle le fils de la perdition. C'est pas des farces, parce que ce qu'il va, lui, il va présenter au monde, il va se présenter comme étant Dieu. Un humain, il va se passer pour être un Dieu, pour être Dieu. Puis, il va séduire le monde, puis le monde va tout croire en lui. Dans cette période-là. La Bible a dit au verset 4, ça dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, l'adversaire, c'est un adversaire, un opposant à Jésus. Un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu puis de ce qu'on adore. Toute forme de religion sur la planète va être soumise à ce gars-là, puis ce gars-là va s'opposer à toute forme de religion. Il va en avoir juste un faux prophète qui va être à ses côtés. Je vais en parler un petit peu plus tard, pas aujourd'hui. C'est un adversaire qui s'appelle, qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu puis ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu puis il va se proclamer lui-même Dieu. Fait que c'est un humain. Tu sais, quand le diable il a parlé à Adam et Ève, là, il a parlé à Ève, il a dit, c'est pas vrai, tu mourras pas si t'en manges, mais tu vas devenir un dieu. Cet antéchrist-là qui est l'accumulation, le développement total du péché et de l'iniquité, parce que l'iniquité, elle augmente de plus en plus, ce personnage-là, puis peut-être d'autres autour, il se pense Dieu. Cet esprit-là qui est en dedans d'eux, c'est l'esprit de mensonge. Ça, je vous disais que aujourd'hui, on en connaît des religions, ce que les gens se disent être Dieu. Il y en a des religions. Je vais en parler un petit peu plus tard là-dessus, mais il y en a des gens qui se proclament Dieu sur la planète, mais qui marchent dans une onction de puissance pour séduire les gens. Il n'y en a pas gros. Celui-là va le faire. Fait qu'on voit là-dedans que, dans ce passage-là, faut voir l'apostasie, puis qu'on ait vu l'homme du péché. Puis là, je vous disais, c'est l'esprit de mensonge qui est en arrière de tout cela. Mais les chrétiens apostates, là, c'est quand tu commences à marcher dans l'esprit de mensonge, puis que tu penses suivre Dieu, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es dans le mensonge. Tu cherches des chemins, tu établis tes religions avec tes règles, là, puis c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Mais ça prépare la venue de l'Antéchrist par rapport à une idée que Jésus a dit. Lorsque le sel perd sa saveur, hein, c'est ça qu'il dit, il dit que si le sel perd sa saveur, à quoi qu'elle va servir, cette sel-là? Il n'y a plus la puissance du sel, c'est de donner du goût salé ou de faire fondre la glace ou de faire des effets, hein, garder pour empêcher de pourrir. Mais si le sel perd sa puissance, son efficacité, même si tu mettrais du sel inefficace dans un pot de cornichon, ils vont tout pourrir. C'est ça qui est l'idée. Puis Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Nous, le fait qu'on marche dans l'onction du Seigneur, quand on marche dans l'onction du Seigneur, parce que des fois, on n'est pas salé, parce que Jésus a dit, en parlant de son Église, vous êtes le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la sonnerez-vous? Il n'y a rien à faire, là, quand il a perdu sa saveur, il reste juste à être foulé aux pieds par les hommes. C'est ça qui va arriver dans la période où ce que l'Antéchrist va paraître. L'Église va perdre sa saveur, l'Antéchrist va paraître, puis il va écraser l'Église, elle va être foulée aux pieds par les hommes. Ce personnage-là, c'est une personne extrêmement orgueilleuse. Quand tu es rendu que tu te penses Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Le gars ne se rappelle pas qu'il est venu au monde d'une femme, là, puis qu'il a son père et une main qui l'a mis au monde. Tu sais, la pensée de se penser créateur de l'univers quand tu es venu au monde comme les autres, puis tu manques, tu es obligé de manger puis survivre. Mais t'es déconnecté, là. C'est du narcissisme, c'est de l'orgueil, c'est de la folie. Il se croira supérieur à tous les dieux. Puis il se proclamera lui-même Dieu. Ça, c'est clairement blasphématoire. C'est un blasphème à Dieu, une offense à Dieu. Quand un humain n'est pas capable de garder sa place, il y a quand Jésus, dans ses enseignements, nous dit que nous, il faut se garder dans l'humilité. Si tu te penses, tu n'es même pas pardonné, tu n'es même pas exaucé, Dieu ne t'écoute même pas quand on est trop. Mais lui, ce gars-là, il s'élève au-dessus de tous les dieux. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup de rois, d'empereurs, de pharaons, et même dans les religions, il y a eu des hommes qui se prenaient pour Dieu. On l'a vu dans l'histoire depuis le début. Mais lui, il va les surpasser. Fait que ça vous donne une idée. Les autres qui n'ont pas été prophétisés, c'est celui-là de la fin qui a été prophétisé, puis qui est attendu, puis que ça va être terrible, puis que Dieu, la fureur lui monte dans les narines. Faut pas penser que Dieu est indifférent de voir ce qui se passe quand les gouvernements prennent des décisions ou un peuple qui a attaqué un autre peuple. Dieu, il haït ça, lui a enseigné à s'aimer les uns les autres. Dieu, il est amour, il n'est pas un destructeur comme cela, mais il va quand même Dieu va mettre en place des choses. C'est lui qui mène quand même le fond de l'histoire. C'est pas eux autres qui mènent. C'est Dieu qui mène. Puis il va permettre que ça arrive dans les temps voulus parce que c'est annoncé d'avance. Puis il faut que la parole de Dieu s'accomplisse comme ça l'a été écrit. On voit là-dedans que nous parlons d'un personnage qui sera là avant le retour de Jésus. Parce qu'il dit dans ce passage-là, il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme qu'on entend dans des doctrines, que ça va arriver après que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu. C'est des choses qu'il faut voir avant le retour de Jésus. Puis vous allez voir un autre verset que je vais vous dire là-dedans, qui confirme ce que je vous dis là. Parce que lui, le Antéchrist-là, puis son royaume seront détruits par Jésus lors de son retour. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. « Et alors paraîtra l'impie, en parlant de ce gars-là qu'on parle depuis tantôt, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Jésus va revenir du ciel à son avènement. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Il va arriver le moment où Jésus revient avec tous ses anges de sa puissance, puis tous les êtres ressuscités, et nous qu'on est enlevés avec lui. Puis Jésus va arriver, puis il va détruire l'Antéchrist avec son armée qui sont rassemblés pour aller attaquer Jérusalem dans la période où ce que ça va arriver. Puis juste par l'éclat de son avènement, tout le monde va dire, « Wow, c'est plus lui qui est Dieu, il est là Dieu! » Par l'avènement, juste l'avènement, c'est assez pour l'anéantir dans son orgueil, mais en plus, il va souffler dessus le souffle de sa bouche, puis tout lui et son armée vont être anéantis. Parce que Jésus ne sera pas de bonne humeur, mais qu'il revienne. Dieu, il n'aime pas ça de voir comment l'humanité vit dans méchanceté. Ça veut dire que si Jésus le détruit lors de son retour, ça veut dire qu'on parle d'un antéchrist qui va être vivant juste avant qu'il revienne. C'est pas qu'on parle pas d'un empereur ou des papes qui se nomment Dieu ou des empereurs ou des pharaons qui sont nommés Dieu dans le passé. On parle de quoi? D'actuel, de quelque chose qui va se passer, qu'on va voir de nos yeux, un gouvernement mondial. Ce gars-là, il va être établi dans ce poste d'autorité-là, puis se penser Dieu, puis vivre des miracles, faire des prodiges, des signes mensongers qu'on a vus pour séduire les nations. Ça dit dans un autre passage, c'est la puissance de Satan qui va l'accompagner. Dans 2 Thessaloniciens 2:9, ça dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan ». Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que Satan aussi en fait des miracles. Faut pas penser que tous les miracles qu'on voit là, de ici et là, que c'est tout le temps Dieu qui les fait seul. Non. Le diable aussi en fait des miracles dans le but de séduire. Ça veut pas dire que la personne sera pas guérie. Ça veut dire que la personne est guérie, mais c'est pas Dieu qui l'a guérie. C'est un mensonge. C'est des prodiges. Mensonger. Les mensonges, ça vient de qui? Ça vient du diable. C'est la puissance de Satan. Satan, là, c'est un ange de lumière avant. Il est devenu Satan par après. Mais il est encore capable de se présenter comme un ange de lumière. Mais ses ministres, c'est des ministres qui se déguisent en ministres de justice. Ils se font passer pour des vrais. En fin de compte, c'est des gens qui sont là pour tromper, enseigner, faire du mal au peuple, puis les conduire dans l'aveuglement. Fait que, comme j'ai dit aussi, il va paraître quand son temps, ça veut dire qu'il y a un temps fixé par Dieu le Père, dans lequel que là, cet impie-là va être relâché, puis lui, il va marcher avec la puissance de Satan, mais c'est pas Satan qui a décidé quand est-ce que ça arrivera, c'est Dieu qui a décidé quand que ça arrivera, mais il laisse faire le gars, puis il laisse faire le Satan d'agir dans son autorité et faire ce qu'il a à faire. Une pareille image de la puissance puis la gloire des royaumes là, que cet antéchrist-là va avoir, ça a déjà été offert par le diable. Mais Jésus l'a refusé. Lui va la prendre. Dans Luc 4, les versets 5 à 7, ça dit, quand on parle de l'histoire de Jésus, « Le diable, l'ayant levé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre, puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance puis la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le diable est en train de proposer cette puissance-là à Jésus. Jésus, il a dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu ne serviras que Dieu seul. » Il n'est pas question qu'il se mette à genoux devant le diable. Mais ce gars-là va être à genoux devant le diable. Puis on va le voir dans les passages en plus loin. Il va se mettre à genoux, puis la puissance du diable va lui être remise et l'autorité sur toute la terre. Cette puissance-là, le diable, il dit, « Je la donne à qui je veux. » Mais elle lui a été donnée au diable quand Adam et Ève ils ont accepté d'obéir au diable, ils ont donné de la gloire au diable, le diable est devenu le dominant de la création pendant tous les siècles. C'est le prince de ce monde. Il avait reçu au début, avant d'être le diable, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, puis il était placé en Éden, le jardin de Dieu, puis il devait gérer de s'occuper d'Adam et Ève, puis d'en prendre soin. Mais lui, il a détourné son objectif en tentant Adam et Ève de désobéir à Dieu pour que lui devienne le boss des humains. C'est ça qui s'est passé. Puis il est devenu un adversaire à Dieu parce que là, il n'envoyait pas la gloire à Dieu, il prenait la gloire pour lui. Fait que la gloire et la puissance de ce monde, parce que le monde entier est dominé par la puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Puis les gens sont capturés dès la naissance, pensant qu'ils font des bons gars, puis ils vont même jusqu'à dire, on est des bons yaubes, c'est un bon yaube. Mais en réalité, il n'a pas de bon yaube. C'est l'adversaire de Dieu. Puis nous, on sort de là quand on donne notre vie au Seigneur. Il nous transporte de royaume des ténèbres, puis il nous emmène dans le royaume de la lumière. On appartient à Dieu. On n'appartient plus à ce monde. On est maintenant des enfants de Dieu. Mais on vit les conséquences des combats régulièrement. Lui va avoir la puissance de Satan pour pouvoir gérer le contrôle mondial. Dans la Bible, ça donne une révélation de la bête puis de son gouvernement mondial qu'on va voir s'installer tranquillement. Là, on le voit. Ça fait longtemps que les gouvernements parlent du nouvel ordre mondial. Du gouvernement mondial, là, c'est rendu comme une idée qui s'en vient de plus en plus. Le monde focus a amené l'autorité à une seule place par un gouvernement qui va gérer la planète. Peut-être ça va être bénéfique au début, puis que le monde va être content, puis ça le dit même qu'ils vont dire « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Mais en réalité, ils savent pas, puis ils sont séduits, qu'ils sont menés par le diable lui-même, qui lui donne des bonbons pendant un temps, mais après ça, ça va être catastrophique, sa planète. L'apôtre Jean, il a vu une vision qui s'élèverait de la mer. Ça, la mer, dans l'Apocalypse, ça parle des peuples, des nations. Il s'élèverait des nations, des peuples, une bête à 7 têtes et 10 cornes. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. Il se tient sur le sable de la mer. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, c'est des couronnes, des gens qui règnent, c'est des rois. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. » Pour les gens, aujourd'hui, c'est rendu pas grave les noms qu'on affiche un peu partout. Tu vois des compagnies qui mettent le mot « diable » dans le nom de compagnie. Ça ne le dérange pas, les noms blasphèmes, des blasphèmes, mais Dieu, lui... C'est du blasphème. Quand tu n'amènes pas la gloire à Dieu, c'est du blasphème. Quand on parle d'une bête dans le texte grec, ça parle d'un animal. Un animal sauvage, une bête sauvage. Puis la métaphore, c'est une brute, un homme bestial, un sauvage, quelqu'un de féroce. Fait que cette bête-là, si on suit que c'est une bête, puis toutes les bêtes qui ont été décrites dans la Bible comme royaumes, qui étaient appelées des bêtes, dans Daniel, il en parle de quatre bêtes qui vont s'élever, c'était des royaumes cruels, méchants, du monde qui tue les autres, puis qui domine, puis qui conquiert les autres pays, puis qui prend le contrôle. C'est ça l'idée de la férocité, de la méchanceté. Tout ce qui est contraire à non-respect des autres, puis Dieu, aimez-vous les uns les autres. Pour donner une explication là, des sept bêtes, de la bête à sept têtes et 10 cornes, on va regarder une image de cela. Mais c'est pas une image, c'est une explication d'un théologien. Il y en a plusieurs idées. Ça, tu peux difficilement dire, c'est lui. Il y a des signes pour des paroles. Tu dis, celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes, puis son nombre est 666. Il y en a qui sont pratiqués à faire ce calcul-là. J'ai tombé sur l'Internet une page qui avait au-dessus de 100 manières différentes de calculer un chiffre d'un nom ou de quelque chose qui arrivait à 666. 100 manières différentes que le monde ont trouvé. Ça veut dire, essaye de savoir qui c'est avant que ça arrive. Tu vas juste avoir une idée que ça s'en vient, mais on ne sait pas exactement qui va être ce personnage-là. Mais il y a bien du monde qui agisse semblable à la bête, sans être la bête. Quand on regarde les empereurs, puis tous ceux qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, je vous disais tantôt, qui se proclament Dieu, puis qui sont à les empereurs romains, là, c'était pas des enfants d'école, là, c'était des tueurs, des conquérants, ils ont détruit des villes, des villages, des pays, pour prendre le contrôle. Puis ça se produit encore aujourd'hui. Fait que du monde méchant, c'est pas nouveau. Mais là, on veut savoir qui c'est. Lui, son commentaire dans le dictionnaire biblique de Johnson, c'est le dictionnaire peuple du Nouveau Testament, il mentionne les noms des sept têtes. Il ne présente pas ça comme étant sept nations qui vivent aujourd'hui. Il parle de sept royaumes, empires royaumes, qui ont été dans l'histoire, qui ont attaqué le peuple juif. Regardez bien les noms. Ça, il nous dit l'Égypte, quand l'Égypte, ils ont gardé en captivité le peuple juif. C'était le premier. Il y a eu la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, la Rome. Suite, là, il y en a 6, puis il dit le 7e, d'après son opinion, ça se réfère à l'empereur d'Orient ou de la Grèce, là, l'Empire romain d'Orient qui continua son règne despote après la chute de Rome. Cet empire était également un persécuteur. Puis aucun empereur n'a été plus cruel que Justin. Ça, en analysant ça, c'est parce que quand il décrit la bête, c'est que Daniel, il en parle un peu plus loin, puis je ne voulais pas rentrer dans tous les détails, il y a trop de détails là-dedans. Mais il parle de la bête, il y en a 5 qui sont tombés, un qui est, puis l'autre paraîtra. Fait qu'il parlait des 7 têtes, qu'il y en avait 5, c'était du temps passé au temps d'un certain temps, puis que les autres devaient paraître. Fait que l'idée, c'est que faut pas penser que ça vient tout d'un coup sec, ces 7 têtes-là. C'est 7 moments où il y a eu des gouvernements mondiaux, puis qui ont fait la dictature sur l'humanité. Mais ça dit qu'il y en a un de ceux-là qui va revenir. On va le voir dans un verset. Dans la vision du prophète Daniel, il y a une vision d'un animal à 10 cornes, représentant l'Empire romain, dans Daniel 7:7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Puis il y avait de grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Puis il y avait 10 cornes. On voit là-dedans qu'il est en train de prophétiser l'Empire romain. Mais après ça, l'Empire romain s'est éteint. Mais après ça, c'est parce que la bête va revenir comme étant une de ces empires-là qui va ressusciter. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, les théologiens, pensent que ça va être comme une résurrection de l'Empire romain qui va revenir formant 10 pays qui vont recevoir une autorité puis vont faire un contrôle mondial. À la fin des temps, cette bête reviendra. C'est ce que je vais vous expliquer dans un verset qui dit cela. Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était et voyons, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Mais elle doit monter de l'abîme, c'est comme ça ressuscite, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux que le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voyez-vous, c'est comme si un des empires qui a déjà existé va se revenir. Ça va être un empire qui va prendre le contrôle de la planète par la puissance du diable. Le diable lui donnera sa puissance et son autorité. Apocalypse 13, 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça veut dire que cette bête-là va avoir le contrôle par la puissance de Satan, puis son trône même va lui être donné par la puissance de Satan, puis ils vont avoir une grande autorité. Comme l'Empire romain qui régnait sur toute la terre de cette époque-là, pratiquement toute la terre. Une de ses têtes, parce que là on parlait des têtes, les sept têtes, là, une de ses têtes recevra une blessure mortelle et sera rétablie. C'est ça l'idée qu'elle existait, elle n'existera plus, puis elle va revenir. L'Apocalypse 13:3 dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration de la dernière bête. » Parce que ça va être la dernière bête, la celle qui va être là dans la fin des temps avant que Jésus revienne, que Jésus va détruire. Fait qu'il y en a qui interprètent ce passage-là en disant que c'est le personnage qui va être détruit, comme ça peut être l'idée, parce qu'il y en a qui pensent que c'est le faux prophète qui va mourir, pas faux prophète. L'antichrist, le personnage impie, l'homme impie, c'est le dominant, il va mourir puis il va ressusciter. Il y en a d'autres qui pensent, ça parle du pays. La tête, c'était un des pays qui existait, puis qui n'existait plus, puis qui va revenir. Un empire qui va revenir. Les gens se tourneront, on l'est déjà comme ça, mais ça va être encore pire. Ils se tourneront vers des cultes sataniques pour glorifier le diable d'avoir amené cet antéchrist au lieu de louer, de bénir, de servir le seul Dieu créateur de tout. Parce que ça va séduire l'humanité, ce qui va se passer par les miracles qui vont se produire. Les gens vont être séduits, vont dire, hey, c'est lui, c'est le Messie qu'on attend, parce qu'il y en a, les Juifs attendent encore un Messie. Plein de monde attendent un Messie. Puis là, il y en a qui l'appellent le Maitreya, il y a toutes sortes de noms. Mais mec qui paraît, il va faire des miracles, puis il va séduire tout le monde, puis le monde va adhérer à lui, parce qu'ils sont tous animés de l'esprit de mensonge. Les seuls qui adhéreront pas, c'est ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu aimes la Bible puis tu veux baser ta foi dans ce qui est écrit, reste attaché à ça, puis tu seras pas séduit, tu n'embarqueras pas dans cette séduction-là. Mais tu verras du monde guéri autour de toi, la puissance de Satan va être en action pour séduire, parce que c'est un faux. Faut pas embarquer dans n'importe quoi. Faut écouter ce qui se dit, voir si c'est biblique. Fait qu'ils vont se mettre à faire des cultes sataniques pour glorifier le diable d'avoir amené un personnage comme cela. C'est comme s'il y aurait un autre Jésus qui apparaîtra, mais là, tout le monde le suivra, mais qui sera animé du diable à la place d'être animé de Dieu. C'est une affaire semblable à ça, là. Puis qui se fait passer pour Dieu. Il se dit Dieu, Jésus, il est à Jésus. On le croit, on le sait. Mais l'autre qui va paraître, lui, c'est un faux, il vient pas de Dieu. Dans Apocalypse 13, 4, ça dit, ils adorèrent le dragon. Le dragon, c'est le diable. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, puis ils adorèrent la bête Fait qu'il lui se proclame Dieu, ils vont aussi se mettre à genoux devant lui, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, parce que ça va être une super puissance mondiale. Cette puissance mondiale-là continuera à se glorifier pendant 3 ans et demi de son règne. Dans Apocalypse 13:5, puis il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. C'est un royaume-là qui va s'élever, puis qui va être en contrôle mondial, puis qui vont faire tout ce qui va avoir à être fait, comme en exemple la marque de la bête, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un contrôle mondial-là, c'est lui qui va le faire, mais il va se glorifier, puis son règne, ça dure 3 ans et demi. Fait qu'il reste au moins encore 3 ans et demi pendant le règne de ce gars-là. Ça veut dire que Jésus ne revient pas cette semaine, ça c'est sûr. Vous pouvez continuer à l'espérer, de le rencontrer, mais ce ne sera pas parce qu'il va descendre. C'est plutôt peut-être parce que vous allez monter. Parce qu'il y en a qui risquent de mourir avant qu'ils reviennent. Puis c'était une délivrance. Ça sera mieux qu'on s'en aille avant. Parce que je ne pense pas qu'on va aimer cette période-là. Cette puissance mondiale continuera à se glorifier pendant 3 ans et demi, mais dans leur se glorifier, là, on parle de s'élever, dire des affaires qui n'ont pas de bon sens, qui sont une offense à Dieu. Il dit que c'est des paroles arrogantes et des blasphèmes. Quand quelqu'un se proclame Dieu, il se pense Dieu, c'est du blasphème. Il y en a juste un qui l'était, c'est Dieu qui est dans le ciel. Puis il a envoyé son fils, il est remonté, il est en 3 êtres distincts, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre morceau qui va là pour être Dieu. Marie, ça compte pas, puis tous les autres saints qui ont mis là, ça compte pas, ça n'existe pas. Ils ne sont pas ressuscités, ils sont tous devant le trône, là, dans un lieu de repos, mais ils attendent la résurrection des corps, tandis que Jésus, c'est le seul qui est ressuscité, puis qui est monté avec son corps, puis qui vit éternellement. Fait que tous ceux qui se disent ça à terre, on est Dieu, blablabla, puis là, ça, le nouvel âge, il est fort là-dedans, on est Dieu, on est en communion avec la nature, bla. C'est tout du mensonge, là, c'est du blasphème aux yeux de Dieu. En étant dans un contrôle mondial, cet empire va s'acharner à faire la guerre aux chrétiens. Parce que lui, il se nomme Dieu. Puis tout le monde, ça dit dans un autre passage qu'on va voir, tout le monde va se mettre à genoux devant lui, sauf les chrétiens. Ça fait un peu penser à l'histoire de Shédrach, Meshach et Abednego quand ils ont demandé de se prosterner devant la statue. Eux autres, il n'y en est pas question. Puis l'autre, le roi, dans ce temps-là, c'est le roi de Babylone, un conquérant, un de ceux qui se pensent à Dieu, puis qui se disait, par ma grande puissance et ma magnificence, j'ai tout fait mon royaume. Dieu l'a envoyé manger de la poussière, manger du gazon pendant 7 années afin de l'humilier. Mais c'était un homme et non Dieu. Mais ça va être un peu la même image qui s'est produite dans ce temps-là, va se produire. Ce monde-là, le monde va adorer, parce qu'ils sont séduits, ils vont l'adorer, ce gars-là. Ils vont se mettre à genoux, sauf les ceux qui appartiennent au Seigneur ne se mettront pas à genoux. C'est pour ça qu'il va y avoir une guerre, une des conséquences, ou des, appelez ça comme vous voulez. Dans Apocalypse 13, 17, il lui fut donné une permission à cet empire mondial satanique de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va y avoir une persécution mondiale contre les chrétiens, pas partout. Bien, la Bible, elle en parle, qu'il y en a qui vont être nés en captivité, puis il y en a d'autres qui vont périr par l'épée. Mais la Bible parle aussi de deux qui vont être dans un champ, un va être pris, l'autre va être laissé. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde qui vont être à l'état naturel dans la vie, en train de travailler dans le champ, ou il y en a d'autres, deux dans un lit, un va être pris, l'autre laissé. Il va y avoir du monde dans certains pays qui subiront pas la même persécution que d'autres par ce gouvernement-là. Mais ça va arriver. Puis il y en a plein qui vont périr. Déjà, il y a souvent des chrétiens qui se font couper la tête, puis se font mettre en prison, se font brûler les églises, puis toutes sortes de troubles présentement ailleurs. Mais on ne sait pas comment ça peut revirer. Mais il ne faut pas penser que c'est les musulmans qui vont prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que cet antéchrist-là va s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu. Il va s'opposer aussi contre le musulman, la religion musulmane. Il va s'opposer sur tout, sauf une qu'on va voir avec le faux prophète qui va être avec lui. On va voir ça plus tard, si Dieu le veut. Fait qu'il va lui être donné, là. Il lui fut donné. C'est une permission que Dieu fait avec un contrôle. C'est Dieu qui veut cela. Pas qu'il veut cela, mais ça fait partie. Dieu voulait pas que Jésus meure. Mais il fallait que Jésus meure. Il y a des raisons pourquoi Dieu permet des choses qu'on comprend pas. Pourquoi qu'il l'a pas protégé? Mais il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il s'accomplisse ce qui était écrit. Puis vu que ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament, que c'est un royaume-là va faire la guerre aux saints pour les vaincre, mais il faut que ça s'accomplisse. Fait que quand ça va arriver, si ça nous arrive, il ne faut pas dire « Dieu nous a abandonnés ». Pas pantoute, Dieu contrôle tout, puis il permet ça parce qu'il sait qu'il va te donner la force de pouvoir la supporter, ton épreuve. Puis tu vas être encore debout quand Jésus va venir te chercher. L'important, c'est que tu cherches à être rempli de sa force aujourd'hui pour être capable de rester debout jusqu'à la fin. Il nous donne cette responsabilité-là de chercher en lui la force nécessaire pour passer à travers de ce qui s'en vient. Il lui fut donné, au verset 7 encore, de faire la guerre, non, il fut donné de faire la guerre aux saints, puis il lui fut donné aussi autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est un contrôle mondial. Tous les gens de la planète s'agenouilleront devant lui, sauf ceux qui appartiennent à Dieu. Apocalypse 13, 8, ça nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adorer, là, c'est se mettre à genoux, se prosterner. Tous les habitants de la terre vont être séduits puis vont croire. On va voir même que la semaine prochaine, si Dieu le veut, le faux prophète va faire une image de ce personnage-là, puis ils vont animer cette image-là, puis ils vont faire que le monde soit obligé de se prosterner. Puis de recevoir sa marque pour un signe d'appartenance. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la livre, ceux qui n'ont pas été écrits dès la fondation dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dieu a écrit des noms puis nous a appelés. Il a établi des règles pour qu'on devienne son disciple, c'est ses lois à lui. Il a décidé, crois au Messie, repens-toi, puis engage-toi à suivre Jésus, mais il savait d'avance que tu le ferais, fait qu'il te connaissait d'avance. Il écrit ton nom dans le livre avant même que ça commence, mais ton rôle, c'est de persévérer jusqu'à la fin, parce qu'un nom, ça s'efface. Mais persévère jusqu'à la fin, puis si ton nom est écrit, puis tu es déjà dans le chemin, mais... Tu marcheras pas à adorer ce personnage-là, ni cet empire-là, ni tout ce qui appartient à cet empire-là. On va rester ferme, puis nous autres, on veut rien savoir. Nous autres, c'est Jésus qu'on sert. C'est pas n'importe quel humain qui se prend pour Dieu. Je vous laisse avec un dernier verset. Jésus nous a dit, puis ça, c'est sûr que c'est lourd ce que je viens de vous dire là, parce que ça nous présente comme un avenir qui est triste. Mais ce qu'on... faut aussi regarder au moins un verset qui nous rassure que Jésus, il sait qui qu'on est, puis il sait où ce qu'on est aussi. Il sait qui qu'on est. Il connaît ses brebis. Il dit, mes brebis, je les connais, il y a de me suivre. Bon, il nous connaît, puis il sait où ce qu'on est pour le moment, ce qu'il va venir nous chercher. Jésus, dans Jean 14, 1 à 3, ça dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il parle à nous, là, aujourd'hui. On est tous assis là pour lui, là. Il parle à nous. Il est en train de nous préparer une place. Il est en train de nous dire, regarde, là, tout ce qui s'en vient, je te l'explique, là. C'est tout écrit dans la Bible pour l'annoncer d'avance. Mais pense, il dit, trouble-toi point. Crois seulement tout ce que je te dis. Il dit, je te connais, je sais où ce que tu habites, Je suis en train de te préparer une place, l'autre bord. Pense à qu'est-ce qui vient après. Puis lorsque je m'en serai allé, puis que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia! Il va nous prendre avec lui afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Y a-tu quoi de plus beau que ça de savoir qu'un jour, il va venir nous chercher? Je dis pas que ça va être facile, là, ce chemin-là. Mais il va, pensons, focussons, il y a un jour, il va venir nous chercher, il va nous prendre avec lui, afin que, où ce que lui, il est, mais que nous y soyons aussi. Restons accrochés aux promesses de Jésus. On n'a pas le choix de parler de toutes ces horreurs-là, il n'y a pas grand monde qui en parle. Parce qu'on tient tout, oh, ça c'est après la grande tribulation, c'est après l'enlèvement, c'est pas vrai. C'est avant l'enlèvement. Je l'ai dit tout à l'heure, il fallait que l'Antéchrist soit détruit par la venue de Jésus, son avènement. Ça veut dire que c'est pas après, il peut pas être détruit avant qu'il existe, là. Il est là, il va être là, puis Jésus veut qu'il revienne. Il vient nous chercher pour nous prendre avec lui. Fait qu'il va y avoir plein de chrétiens encore qui sont debout devant lui, vivants. Ou, je ne sais pas, dans notre maison peut-être, ou en prison, je ne sais pas. Mais il y en a qui vont être vivants. Puis il va avoir cet empire-là qui va régner de méchanceté puis de malheur. Mais quand Jésus va revenir, il va y régler son cas par l'éclat de son avènement puis le feu qui sort de sa bouche, le souffle de sa bouche. Pouf! Et voilà, il n'est plus d'antéchrist, fini ses règnes de terreur. Ça va direct dans les temps de feu. C'est ça qui va se produire. Pour nous, frères et sœurs, restons accrochés à la grâce de Dieu, demeurons fermes dans la foi qu'un jour, Jésus s'en vient me chercher, il s'en vient vous chercher. Dites-le, il s'en vient me chercher. Il s'en vient me chercher. C'est juste une question de temps, il s'en vient me chercher. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est vraie. On te remercie de ce qu'on vient de voir, Seigneur. C'est toi qui l'as révélé, c'est toi qui nous en montre les bouts un peu partout pour nous faire comprendre ce qui s'en vient, puis on sait que ça va arriver. Ce qu'on te demande, Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous une fermeté, donne-nous l'assurance, donne-nous la force pour rester debout et de ne pas broncher, de ne pas accepter quoi que ce soit qui vient de ce royaume-là qui s'en vient. On veut que rester en communion avec ton esprit, puis marcher dans la foi dans notre Sauveur qui est Jésus-Christ. Merci de ton Saint-Esprit qui va nous garder, nous fortifier, nous affermer, puis nous ouvrir des portes pour aller où il faudra aller selon ton plan, Seigneur. Tu tiens toutes choses en contrôle. On te remercie de tout ce que tu nous révèles dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.